Salut à tous, Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui donc je suis avec Félix Chassier. Salut Félix.
Bonjour.
Alors Félix, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs?
Oui, très bien. En tout cas, merci de m'avoir invité. Alors, je fais de la pratique philosophique depuis à peu près 2 ans. J'ai choisi de suivre le travail d'Oscar Bonifié principalement. Et donc, je propose des consultations philosophiques, du coaching à la consultation philosophique, c'est-à-dire aider les gens à apprendre eux-mêmes à consulter. Et donc, par ailleurs, je fais des études d'orgue, voilà, qui a à peu près rien
D'accord.
à voir.
Ok. Est-ce que tu pourrais commencer par présenter un petit peu le sujet dans les grandes lignes? Donc évidemment, vous aurez tous compris qu'on va parler donc du conseil philosophique, même si je sais que Félix n'aime pas trop ce terme et qu'il préfère le terme de consultation. Voilà. Est-ce que tu peux commencer par présenter un petit peu cette approche?
Oui, bien sûr. Alors déjà, je vais commencer par dire qu'est-ce qui me dérange peut-être dans le terme de conseil. C'est vrai que dans le terme de conseil, il y a l'idée de je sais ce qui est, je sais ce qui est bien pour l'autre, je sais ce qui je vais apporter mon savoir. Et c'est, je dirais peut-être à l'opposé de ce que c'est la consultation philosophique. C'est pour ça que ce terme me dérange un petit peu. Voilà. Par ailleurs, la consultation philosophique, elle est née pour se démarquer un petit peu de l'approche traditionnelle de la philosophie qu'on peut avoir, comme essentiellement érudition et l'étude de l'histoire des idées. C'est vrai que, en fait, c'était dans l'Antiquité, pratiquer la philosophie était quand même quelque chose d'assez courant, une idée assez implantée. Mais c'est vrai que, comme le montre Pierre Hadot, comme le monde Pierre Hadot, finalement avec le christianisme, comme le christianisme a joué ce rôle de pratique sur soi, la philosophie est devenue principalement érudition après. Et c'est vrai que c'est resté après dans l'histoire. Et aujourd'hui, quand on parle de philosophie, les gens pensent au cours de philo de terminale, à la fac, etc. Et finalement, je pense que la consultation philosophique, elle revient renouer avec cette tradition antique de pratiquer la philosophie. Alors,
C'est
qu'est-ce que
très
c'est?
très socratique finalement, alors comme idée, quoi.
Alors, oui, c'est très socratique. En tout cas, nous, on se réfère plutôt à Socrate, notamment par l'art du questionnement. C'est-à-dire que je dirais c'est le principal outil qu'on utilise, et ça me permet d'introduire la consultation philosophique, parce qu'il y a différentes façons, je dirais, de faire la consultation philosophique. Il y a par exemple Eugénie Véglerys, elle est plutôt, par exemple, prof de philo. Elle est prof de philo agrégée, il me semble, et donc elle va plutôt chercher à utiliser l'histoire des idées et la connaissance pour permettre d'éclairer l'existence et de réfléchir. Je dirais presque à l'opposé de ce que nous on propose, qui serait justement d'abandonner ce qui a trait à la connaissance pour justement interroger l'existence à partir du questionnement. Voilà, par exemple. Sinon, je dirais, par exemple, il y a par exemple Lou Marinoff, qui est assez connu dans le milieu, notamment par ses ouvrages, etc. Lui, il a une façon de faire que je dirais assez entre les deux, c'est-à-dire que lui va plutôt chercher, il va utiliser aussi les auteurs philosophiques pour discuter avec son client. Mais c'est pas centré principalement là-dessus, par exemple. Et donc, ça me permet de parler finalement de l'objectif qu'on peut donner au conseil philosophique, consultation philosophique. C'est vrai que je dirais ça, c'est peut-être particulier à notre approche. quand on va voir un consultant, en tout cas pour nous, déjà la première chose qu'on demande, c'est de venir avec une question qui permette de capturer un problème existentiel que rencontre une personne dans sa vie. C'est-à-dire que déjà en première approche, elle vient avec une première idée, une première représentation de son problème. Et ce que nous, on va chercher à faire, c'est, je sais pas, en la questionnant, lui permettre d'identifier plus clairement finalement qu'est-ce qui lui pose problème, la réalité qui est en jeu. Je dirais que souvent, on ignore vraiment ce qui nous pose problème. Et c'est ça, ça amplifie finalement ce qui à la base nous pose problème. C'est le chaos dans la tête et on sait plus vraiment l'objet de nos peurs, etc. Et ce que justement permet la consultation philosophique à travers d'identifier justement ce qui pose réellement problème, c'est peut-être se réconcilier avec, c'est-à-dire apprendre à la nommer, cette réalité, ou notamment voir ce qu'il y aurait de positif dedans. C'est par exemple une idée qu'on trouve chez Nietzsche à travers la transvaluation, que chaque chose finalement qui est perçue négativement pourrait être aussi vue positivement, ou inversement, quelque chose de positif pourrait être vu de manière négative. Souvent, ça permet de dédramatiser, justement, vous comprendre qu'une chose qui est en place a peut-être une raison d'être et se réconcilier avec. Notamment, un des autres objectifs qu'on peut avoir en consultation philosophique, c'est d'identifier sur finalement les présupposés sur lesquels on a fondé notre propre existence, c'est-à-dire sa propre axiologie, ce qui nous semble, ce qui est en fait non négociable pour nous sans qu'on en ait conscience. C'est par exemple si on prend l'idée qu'on peut trouver dans le théorème de Gödel, bien que ça soit pas à la base sur l'existence, c'est-à-dire que dans tout système il y a au moins une proposition qui est indémontrable. Et parce que justement ce qu'on va chercher peut-être en consultation philosophique, c'est d'identifier qu'est-ce qui relève au départ d'un acte de foi, d'un axiome. Et peut-être le discuter. Et ça, je pense que ça, par exemple, bien qu'on partage avec la psychanalyse, par exemple, cet objectif de connaissance de soi, c'est peut-être ce qui distingue le plus avec cette approche, c'est qu'on ne va pas chercher à comprendre les causes du pourquoi la personne en est là où elle est, mais plutôt comme en parle par exemple Palo Alto, c'est de comprendre comment le système fonctionne, c'est-à-dire d'aller d'explorer la manière dont finalement fonctionne, se représente les choses pour la personne. Et ça, je pense que c'est une grande différence.
Oui, tout à fait. Peut-être pour rebondir là-dessus, parce qu'on avait fait il y a longtemps, donc hein, on en a un peu parlé avant l'épisode, mais on avait fait il y a longtemps un autre épisode sur les entretiens philosophiques, mais en partant du livre Platon, notre Prozac, hein,
De Marinoff,
de Marinoff. Et moi, il y a une chose que, en regardant un peu ce que faisaient les différents auteurs ou les différents courants ici ces derniers jours, notamment avec les sources que tu m'avais données, moi je me suis un peu écarté de cette idée qu'on pouvait justement associer cette approche avec la psychanalyse, en pensant que ça serait finalement toujours une sorte d'anthropologie philosophique. Parce que finalement, quand on regarde, enfin quand on écoute ce que tu viens d'expliquer, et on regarde ce que font certaines personnes dans ce courant, on voit qu'effectivement on n'est pas dans une compréhension des causes, mais qu'on est plus dans une compréhension du fonctionnement. Et que finalement, ça se rapproche plus de ce qu'on fait en thérapie cognitive ou dans des approches plus thérapie alternative, genre PNL, enfin des approches qui réfléchissent aux croyances, aux valeurs, à l'interaction entre ces croyances et les idées, les émotions, etc. Donc c'est plus fonctionnel en fait. Et ça, j'avais pas cette impression avant, donc ça c'est vraiment une chose que j'ai découvert. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me suis rendu compte aussi que donc Marinoff, d'après ce que j'ai vu sur Sur Internet, c'est aussi quelqu'un qui était en contact avec, avec Albert Ellis, qui est un des fondateurs de la thérapie cognitive. Donc, et d'ailleurs, de la thérapie cognitive, c'est marrant puisqu'elle s'est inspirée officiellement des méthodes socratiques et de la philosophie pour inventer certains de ces outils. Et donc, il y a carrément une manière de travailler, enfin un outil qui s'appelle le questionnement socratique en fait dans la thérapie cognitive et comportementale. Et donc je trouve ça, enfin, finalement on voit beaucoup plus de liens donc entre ces deux courants qu'avec la psychanalyse, je trouve.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a quand même une différence, et ça qui est une différence essentielle, et ça me permet de l'introduire, c'est que ici, avec la consultation philosophique, le but n'est pas d'abord thérapeutique. Et c'est ça peut-être qui diffère de courants plus psychologiques. C'est-à-dire que c'est pas d'aller mieux ni d'atténuer les souffrances ou que ça produise finalement un effet ou pas. On dirait que c'est indifférent par rapport à ça, bien que ça puisse le faire et que on puisse le faire aussi à travers ça. C'est plutôt je dirais, c'est le but, c'est la prise de conscience, c'est de voir les choses. D'arrêter de se raconter des histoires, notamment sur son problème, et de voir la réalité. J'irais, et ça, comme j'ai fait un peu d'hypnose, ça, je l'ai remarqué souvent en voyant par exemple sur les forums hypnose ou avec d'autres hypnothérapeutes. J'ai remarqué que bien souvent, des gens qui étaient orientés solution, certaines personnes veulent tellement, généralement, résoudre un problème et chercher une solution, qu'il y a derrière une sorte de phobie du problème. Comme si on voulait absolument l'évacuer par tout un tas d'approches stratégiques. Et c'est peut-être ce qui différencie le plus, parce que nous, ce qu'on va chercher plutôt, c'est de voir et finalement d'accepter. Après, ça n'empêche pas que une fois qu'on a accepté, on peut décider de changer, bien sûr. Mais c'est pas l'objectif premier.
Ouais, je pense que c'est vraiment très important de citer cette différence. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que à mon avis, c'est une des principales difficultés des courants stratégiques, entre guillemets, au niveau de la thérapie. C'est que les gens sont tellement formés à être des techniciens qui résolvent des problèmes. Bah, ils ont parfois du mal à passer par une phase où ils sont juste dans l'écoute, où ils sont juste dans la création de rapports, et puis, comme tu dis, de ne pas vouloir absolument résoudre les problèmes au point de le faire disparaître ou de faire que le client va ne plus en parler parce qu'il sent qu'il faut absolument qu'il aille mieux.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est on le voit bien avec une approche de l'hypnose qui est plutôt, je dirais, influencée par la PNL. Je dirais, par exemple, à la base, l'hypnose, c'est pas de la PNL.
Non, pas du tout.
Et aujourd'hui, par exemple, l'hypnose, c'est quand on va dans les principales écoles d'hypnose, c'est une approche technicienne qui est plutôt héritée de la PNL. Et voilà,
Ouais,
je pense
en
avoir
tout
observé
cas,
ça.
la PNL a influencé une partie des thérapeutes qui faisaient de l'hypnose. Mais je pense que c'est pas non plus généralisé, hein, parce qu'il y a quand même
Bien sûr, je suis d'accord,
mal
bien sûr.
d'écoles qui sont encore assez fort dans le rejet de la PNL pour tous ces aspects théoriques qui sont fort critiqués. Donc ouais, il y a différentes influences, mais je pense que on peut dire de manière plus globale que l'hypnose a été fort influencée par un travail sur tous les aspects cognitifs, que ce soit via la PNL ou via plus que la psychologie cognitive. C'est vrai qu'on s'est plus orienté vers le travail sur les croyances, sur la vision du monde, sur les recadrages. Et pas vraiment chercher l'origine profonde d'un problème qui serait enfoui je ne sais où, ou dans l'enfance, ou même dans les vies antérieures, ou je ne sais pas où.
Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que je sais pas si c'est pareil chez vous, mais par exemple en France, je vois que pas mal, quand on lit par exemple pas mal de nouveaux formés, ils utilisent par exemple un langage qui est purement qui vient de la PNL. Et
Ouais,
moi,
ouais.
ça me surprend. Voilà, je je pense.
Je pense que c'est plus enfin, c'est très présent en France parce qu'il y a beaucoup d'écoles de PNL en France qui forment aussi à l'hypnose. C'est moins présent en Belgique. En Belgique, il y en a, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. En Belgique, la plupart des hypnothérapeutes sont formés plus à la thérapie brève, donc plus au côté systémique. La PNL est moins développée, mais c'est vrai qu'en France, ça a l'air particulièrement le cas. Je pense que ça varie un peu d'un pays à l'autre. Et en Amérique, c'est encore différent parce que là, il y a beaucoup de références théoriques au niveau de l'hypnose qui sont plutôt des gens qui pratiquent la thérapie cognitive. Et qui, voilà, il y a carrément donc un courant qui s'appelle Cognitive Hypnosis en Amérique, dont on parle jamais ici d'ailleurs, mais qui. Voilà, donc je pense que ça dépend un peu des endroits, quoi.
C'est vrai.
Mais de toute façon, voilà, c'est vrai que l'idée elle-même, c'est de travailler sur les processus en cours, en fait, les processus au niveau de l'esprit, et ça on retrouve cette idée effectivement un peu partout, quoi.
Et ça me permet aussi de parler peut-être de la différence avec Lou Marinov, parce que je pense que Lou Marinov, par exemple, lui, son objectif principal, c'est quand même de trouver des solutions à un problème. Il reste dans cette dimension, je dirais, plus psychologique. Et c'est d'ailleurs peut-être le point crucial de différence avec.
Je ne t'entends plus là.
Pardon.
Ouais, voilà, ok. Tu disais c'est le point crucial.
Oui, avec Lou Marinov qui lui va plutôt chercher à répondre à un problème, voilà, à trouver une solution.
Oui, c'est vrai que c'est assez marqué dans ces. Quand on lit ce qu'il fait, c'est une différence qui ressort assez fort, quoi. C'est assez fort axé sur les solutions, ce qui amène des différences au niveau de la pratique concrète, hein.
Bien sûr. Alors que nous, je dirais, on conçoit plutôt la consultation philosophique comme, je dirais, un accompagnement existentiel qui soit assez bref. C'est-à-dire que, par exemple, lui, par exemple, Oscar Bonifié, lui, pratique plutôt la séance unique, je dirais. C'est-à-dire que, on fait une séance et pour réfléchir sur son existence et voilà, on s'arrête là. Pour la personne qui souhaite continuer, elle peut faire un travail à partir de cette séance comme il propose par exemple de la filmer et que la personne regarde la vidéo et répondre à un questionnaire à partir de ça. Ce qui permet souvent de dédramatiser ce qui peut se passer dans la consultation. C'est vrai que par exemple Brunifié, lui, une approche qui peut paraître violente, parce qu'il travaille avec, il utilise les résistances de la personne pour finalement dégager comment la personne fonctionne. Donc, il travaille un petit peu, je dirais, contre les résistances, et ce qui peut générer de la résistance. Mais on pourrait très bien, et c'est plutôt moi je me situe plutôt dans ce bord-là, c'est de choisir d'être plus souple, de se dire que si à un moment donné on voit que ça coince avec une personne, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas répondre à des questions, etc., pour X ou telle raison, simplement pas insister, bien que et ne pas attendre un résultat, c'est-à-dire que il peut très bien rien ne se passer. Et il peut très bien ne rien se passer dans la séance. Si on choisit d'être souple, mais de se dire que c'est pas grave, tant pis, ça peut mettre plusieurs séances, voilà, au lieu que ça soit une séance unique, aller de partir pour trois séances, quelque chose comme ça. Après, il y a d'autres formats qui peuvent être faits, et un nouveau format, par exemple, qu'a développé Oscar et que je trouve très intéressant, c'est plutôt que de questionner la personne, c'est de l'accompagner pour qu'elle se questionne directement elle-même. C'est-à-dire, par exemple, quand elle vient avec une question, lui demander, on l'écrit par exemple sur un ordinateur et avec un tableau qui projette au mur, on va écrire sa question, lui demander elle-même de dégager les présupposés de sa question, par exemple. Dégager les présupposés. Si le philosophe en voit d'autres, qui les propose, et tout de suite après, lui demander, mais tiens, quelle question tu pourrais te poser? Trouve au moins trois questions que tu pourrais te poser. Voilà. Le philosophe en rajoute trois, par exemple, et la personne choisit une question parmi les six. Et on a remarqué que, par exemple, ce format-là permettait je dirais, d'enlever toute résistance, d'enlever les résistances que peuvent avoir les gens au questionnement. Ça, c'est une idée qu'on trouve chez Erickson, c'est de finalement la personne, elle participe elle-même au processus. Elle participe elle-même au processus et du coup, bah, elle a pas de raison de résister.
On part de ses valeurs à elle et de sa vision du monde pour aller vers autre chose, donc elle n'a pas de raison de s'opposer
Comme
au
là,
lieu.
elle fait partie intégrante, c'est elle qui finalement se pose ce qui se pose ces questions à elle-même. Donc, ah bah, ça permet de, ça, je pense, permet de... Oui, que ça se passe mieux, oui.
Oui, c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on voit chez Brainifer, parce que j'ai regardé quelques vidéos. Bon, pour les auditeurs, hein, j'en mettrai une en lien sur la page du podcast, si vous voulez voir. Mais on voit bien lui, il est vraiment dans le questionnement, c'est-à-dire qu'il envoie des questions à d'autres personnes, des questions qui sont assez confrontantes, et en relevant la manière de réagir de l'autre personne, quoi. Par exemple, il dit là vous êtes dans l'évitement, ou là vous faites ceci ou cela, et c'est assez. Ça semble assez agressif
Oui.
dans un premier temps. D'ailleurs, sur la vidéo que je mettrai en lien, on voit que pendant au moins une partie de la séance, le rapport n'est pas très bon, quoi. C'est la personne, elle est assez mal à l'aise, elle ne comprend pas très bien pourquoi on la martèle de questions. Et en plus, il pose des questions hyper fermées, qui fait qu'il induit aussi assez fort les réponses, au moins en tout cas pendant une partie de l'intervention. Parce qu'il, voilà, il, en fait, il pose une affirmation et puis il dit est-ce que c'est vrai, oui ou non? Et donc,
Voilà, alors ça,
c'est quand
c'est
même très
typique.
particulier, quoi.
C'est, Oscar aujourd'hui, je pense qu'il a évolué par rapport à il y a 20 ans où il a commencé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il travaille plus, donc il travaille plus comme il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il va chercher plutôt à, d'ailleurs, c'est la différence que Socrate fait entre méthode courte et méthode longue. Méthode courte, je vais plutôt, j'irai rentrer dans l'art avec mes propres hypothèses, c'est-à-dire que, allez, je vais proposer mes hypothèses sous forme de questions et finalement voir comment la personne réagit. Et ça, donc évidemment, la conséquence, c'est que le rapport n'est pas bon et que ça génère de la résistance. Après, ce qui est bien, je trouve, c'est que ça permet ça permet de faire réagir la personne. Et l'approche qu'a Oscar, moi, je la conseillerais à un public assez précis. Ça serait pas justement je dirais, à tout le monde, mais plutôt à des gens qui sont déjà thérapeutes ou qui sont ou qui sont eux-mêmes qui font de la consultation philosophique, parce que ça permet de finalement, à travers cette violence, ça permet de révéler des choses directement sur soi qu'on n'avait peut-être pas vues dans d'autres situations. Et c'est pour ça que je pense que voilà, je réserverais ça plutôt à des gens qui sont eux-mêmes thérapeutes, voilà, ou qui font la pratique philosophique. Après, c'est vrai que, donc, je pense que c'est justement une approche plus souple, où justement, au lieu d'aller contre le rapport, contre la relation, c'est d'utiliser justement la relation pour permettre à la personne de mieux réfléchir. Bah, c'est vrai que c'est entre guillemets plus sympa de réfléchir quand on s'entend bien. Et c'est plus facile. C'est pour ça que, bah, en étant plus souple, finalement, on peut aussi obtenir peut-être un meilleur résultat sur certains points.
Moi j'ai une question. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui. Enfin, peut-être garder cette question pour un peu plus tard et passer par une autre avant. Actuellement, comment est-ce que ça se passe la formation par rapport à ces pratiques? Est-ce qu'il y a des instituts qui sont bien installés déjà dans nos pays ou enfin qu'est-ce qu'il en est en fait? Comment est-ce qu'on forme les gens et
Alors, je dirais dans nos pays, non. Alors, par exemple, donc Oscar, lui, propose alors, il y a à Moscou, il a créé un master de consultation philosophique, je crois, c'est donc à l'Institut de psychanalyse de Moscou.
Moscou, carrément. Je savais pas
Ouais.
faire ça plus près.
Et où il travaille avec Victoria Chernenko. Et Victoria, elle aussi, elle est prof en Roumanie. Donc voilà, c'est pas tout proche, en Roumanie, qui est en, qui, non, qui est, donc c'est aussi un master de consultation philosophique. Je crois que c'est en partenariat avec aussi avec une université en Italie. Je sais plus si c'est Venise ou quelque chose comme ça, mais c'est finalement c'est assez dans le cadre officiel, c'est peu présent. Après, c'est vrai que donc Oscar, lui, a sa propre structure en France, qui est l'Institut des pratiques philosophiques, où il propose durant l'année des séminaires de 2 à 5 jours. Il y en a 2 en anglais de 5 jours dans l'année. Sinon, c'est à peu près tous les 2 mois de 2 jours en français. Voilà. Sinon, donc au niveau structure, c'est pour le moment, je dirais qu'il y a que ça. Voilà, c'est très. Sinon, après, il y a des praticiens qui proposent justement des formations. C'est plutôt des formations particulières pour justement développer le questionnement philosophique. Il y a par exemple Audrey Gers, il y a Laurence Boucher et moi-même qui proposons, voilà, de coacher quelqu'un au questionnement.
Donc peut-être je reviens sur la question que je voulais poser il y a 5 minutes. Donc à ton avis, qu'est-ce qu'il y a comme on va dire comme risque ou comme difficulté qu'on peut rencontrer avec cette approche?
Alors, comme risque, tu veux dire,
Je
est-ce
veux
qu'il y
dire,
a...
est-ce qu'il y a des choses auxquelles les thérapeutes, enfin les thérapeutes, je fais un gros lapsus, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles les praticiens doivent être attentifs, des pièges dans lesquels ne pas tomber, ou des choses qui devraient être enseignées dans les formations parce qu'elles sont importantes pour ne pas tomber dans certains pièges, justement
Alors là, je vais donner mon point de vue personnel et qui est pas, je pense, et qui est pas du tout partagé. Je pense qu'il est pas partagé par les autres. C'est déjà premier, c'est je pense que un minimum de connaissances en psychopathologie me semble nécessaire, non pas pour poser un diagnostic, loin de là, et c'est pas du tout notre domaine, mais pour identifier peut-être voir des choses qui sont plutôt bizarres et qui relèvent plus qui ne relèvent pas de nos compétences, par exemple. Je pense pas que cette approche soit bonne pour des gens qui ont des je dirais des pathologies psychologiques. Qui relève de la psychopathologie, par exemple. J'imagine par exemple un schizophrène qui a l'esprit un petit peu morcelé et qui peut passer du coq à l'âne, qui a difficulté à répondre à la question précise, etc. De l'arrêter, lui faire remarquer qu'elle répond pas, etc. Et de travailler comme ça sur cette dimension phénoménologique, je pense, me semble pas,
Non, c'est
c'est
effectivement.
approprié pour faire ça.
C'est sûr que si
Donc
on imagine un schizophrène qui est en phase de délire, à qui on essaye de parler du sens de la vie et qui parle de ses délires et que Michael Jackson est encore vivant et dirige le monde, ça risque d'être assez problématique.
Et Oscar, lui, ce qu'il fait, par exemple, c'est s'il voit que la personne, bah, au bout de façon, au bout de 2 minutes, ça lui pose vraiment problème. Ça lui pose vraiment problème. Il dit, il propose d'arrêter et de rediriger vers quelqu'un de plus compétent, un thérapeute ou quelqu'un. Voilà, mais pas de prendre en charge du tout ça, quoi. c'est bien. Je pense qu'il faut rappeler que c'est donc l'accompagnement existentiel. Je pense que c'est pour des gens qui sont ont des structures saines déjà psychologiques. Et je reprendrai cette idée de Lou Marinov. C'est de réfléchir sur son existence et beaucoup de problèmes qui on va voir un psy, on va voir un psy pour tout un tas de raisons, mais je pense que par exemple un questionnement sur son existence relève plutôt des compétences justement d'un philosophe que d'un psychologue. C'est pas une c'est pas une on n'est pas je dirais on n'est pas malade ou on n'est pas malade quand on se questionne sur le sens de la vie, voilà, ou si on doit arrêter ses études, etc.
Tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Peut-être pour rebondir là-dessus, je pense que j'ai un peu, d'après ce que j'ai vu, c'était justement une des critiques qui avait été faite au début du courant. C'était le fait que les philosophes n'étaient pas forcément au courant de la psychopathologie. Que bon, ça, je pense que tu as raison en disant qu'il faut un minimum de connaissances de base, ne serait-ce que pouvoir reconnaître quelqu'un qui est peut-être délirant ou bipolaire ou autre chose, ou traumatisé, ou qui a des risques suicidaires ou autre. Je pense que ça, c'est vraiment important et que tout le monde n'est pas forcément informé à ça. D'ailleurs, même au niveau des thérapeutes, bon, je pense que tu le sais un petit peu, il y a encore pas mal de thérapeutes qui sont formés à des approches de thérapie, mais qui sont pas. Qui connaissent pas bien la psychologie ni la psychopatho et qui risquent de passer à côté de gens qui devraient être de personnes qui devraient être redirigées ailleurs parce qu'ils ont des troubles graves, quoi. Donc ça, je
Oui,
pense que c'est effectivement assez important d'insister là-dessus, quoi.
je conseille, je conseillerais à tous ceux qui font justement la consultation de philosophie de s'intéresser notamment aux ouvrages de psychopathos qui sont destinés par exemple aux infirmiers. Je l'approche est assez intéressante dans la pratique. Et ça peut être déjà une bonne introduction par rapport aux connaissances de psychopathos qui me semblent nécessaires.
Ouais, c'est une bonne. Un autre point qui est potentiellement peut-être problématique.
Alors, est-ce que je peux te demander avant de
Oui.
te positionner, c'est-à-dire de me dire si c'est une question, une objection ou un commentaire? Tiens, je commence un peu à faire de la pratique philo.
Alors, je dirais que c'est plus une. C'est entre une objection et un commentaire.
D'accord, vas-y.
Donc, c'est un peu de par rapport avec Marinov, justement, et donc ce que mon collègue Jean-Michel avait relevé quand il avait lu le livre. Donc, Marinov, effectivement, donne, comme tu le disais au début, des conseils. Et notamment, il donne aussi des propositions de lecture. Et donc, ça amène un peu, quelque part, à ce qu'il utilise sa propre vision du monde pour conseiller, j'insiste sur le mot conseiller, les gens par rapport à leur situation. Donc là, la question que Jean-Michel s'était posée, c'était est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive dans le sens où à ce moment-là, c'est le philosophe qui conseille sur base de sa propre vision du monde et qui risque d'influencer le patient vers une direction qui lui paraît, enfin le patient ou le client, pardon, vers une direction qui lui paraît à lui bonne mais qui n'est peut-être pas bonne pour le client, quoi.
Oui, ça me semble être finalement ce qui est problématique dans une approche qui est plutôt orientée sur l'histoire de la philosophie. Donc je partage cette critique. Je pense que c'est problématique d'orienter la personne vers des lectures vers un choix de lecture précis, c'est plutôt par rapport à sa propre vision. Mais après, ce qui peut être fait, je pense que cette approche de l'histoire de la philosophie peut quand même être intéressante et se faire. Ça serait par exemple, et ça pourrait nous arriver, par exemple, en consultation, on voit qu'une personne, par exemple, dans sa manière de fonctionner, de penser et de fonctionner, pense par exemple exactement comme un auteur, par exemple. Ça peut être intéressant de lui faire relever, par exemple, est-ce que vous connaissez, par exemple, Descartes qui dit là exactement la même chose que vous, ou à l'inverse, c'est-à-dire si on a, si on demande à la personne de problématiser, c'est-à-dire de voir les choses sous un autre angle, et qu'il y a des difficultés pour le faire, c'est peut-être on pourrait par exemple l'amener à lui proposer des lectures de philosophes qui justement ont défendu des visions qui sont différentes. C'est pas dans un objectif de l'orienter et pour qu'elle pense ça, mais plutôt de voir que on peut penser les choses de différentes manières.
Est-ce que ça arrive souvent que les gens aient une manière de penser ou de concevoir le monde qui correspond à la pensée d'un des philosophes qui a théorisé ce genre de
Ah,
choses?
ça arrive très souvent. Je dirais, je sais pas si c'est courant qu'une personne pense exactement, je dirais, comme Descartes, hein, d'un point de vue général, mais c'est vrai que dans tout ce que de tout ce que les gens disent, ça révèle des positionnements philosophiques qu'on pourrait trouver dans l'histoire des idées, et c'est assez intéressant, je trouve, de plutôt considérer, par exemple, l'histoire des idées comme révélateur d'archétypes de pensée, par exemple. Et c'est vrai, bah, par exemple, je sais pas, quand je pense on a fait de l'histoire de la philo, c'est pas rare dans la vie de tous les jours, de dire, ah bah tiens, lui, il pense comme Kant, tiens, lui, il pense comme Descartes, etc., sur des idées assez précises. Donc je pense que, non, ça arrive très, très, très souvent. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, est-ce qu'on reste plutôt dans une approche qui, je dirais, qui est de la pratique philosophique, ou une approche qui est philosophie théorique? Ça peut avoir un sens, mais il faut que ça soit assumé et clair.
En tout cas, je pense que j'aime bien cette idée de dire aux gens, voilà, votre manière de penser, là, ça correspond plutôt à telle ou telle personne. C'est une manière d'en discuter qui est aussi valorisante finalement, parce que j'imagine que le client, il doit se dire, bon, s'il y a d'autres personnes qui ont pensé comme moi, c'est que c'est pas complètement stupide non plus.
Bien sûr, c'est donner de la valeur aussi à la pensée des gens. C'est-à-dire que les gens qui viennent dans une consultation philosophique, il y a quand même deux axes dans une consultation. À la fois cette dimension existentielle qu'on pourrait faire révéler à partir de ce qui surgit, mais aussi c'est purement le questionnement maïeutique, c'est-à-dire d'amener la personne à développer sa pensée. Et ça, je pense que pour des gens qui viennent et qui observent leur pensée se construire, être cohérente, c'est valorisant, justement, de gérer ce qu'on dit, de mobiliser les compétences philosophiques.
Et à l'endroit où toi tu travailles, enfin avec les gens avec qui tu travailles, est-ce que vous faites toujours, enfin vous pratiquez toujours cette approche en face à face avec une personne, ou est-ce que vous faites aussi des interventions comme Vulgaris en entreprise par exemple?
Alors, je dirais, en fait, nous on fait tous aussi d'autres choses que du face à face, mais on fait plus je dirais, de la consultation philosophique. C'est-à-dire que la consultation philosophique, c'est plutôt une approche qui est pour réfléchir sur son existence, mais avec par exemple avec des groupes, avec des entreprises, etc. Bah, on va pas faire une thérapie de groupe. On veut dire, on va plutôt chercher justement à animer des débats, par contre. Et là, c'est un autre versant de la pratique philosophique, dont la consultation est quelque chose de particulier. C'est d'animer des débats. Et il y a plusieurs courants qui se retrouvent. Et là, c'est beaucoup plus développé finalement que dans la consultation philosophique. Par exemple, on trouve chez Lippmann, notamment avec la philosophie avec les enfants, la pratique du débat. En France, on a par exemple Tozzi qui propose un modèle de débat démocratique. Et nous, avec notre méthode, on propose aussi une façon d'animer des débats, je dirais, qui est plus dirigée. C'est-à-dire que de la même manière qu'en consultation, par exemple, on pose une question, on attend que la personne réponde à la question et part pas sur autre chose. On n'hésite pas, par exemple, à l'arrêter dans ce qu'elle dit, pour si c'est hors sujet, par exemple. Par exemple, ça se distingue principalement des cafés philo où les gens parlent pour montrer qui savent, pour se sentir exister, etc. Bah, quand ça nous arrive, un truc qui peut être vécu de façon violente, c'est par exemple, qu'on fait, c'est par exemple, la personne parle pendant des heures, machin, on l'arrête, on lui dit, est-ce que vous pensez que ce que vous dites est clair ou pas? Le monde se positionner. Est-ce que vous pensez que ce que vous dites est clair ou pas? Ah oui, c'est très clair. Alors, et pour les autres, est-ce que vous pensez que c'est clair ou pas? Ah oui, pour les autres, ça va être clair. Eh bien, on va demander qui pense que ce qu'a dit machin est clair? Levez la main. Et là, on voit que personne lève la main. Et on dit, un problème. Monsieur, est-ce que vous êtes surpris de voir que personne lève la main? Alors, il y a des gens, ils vont dire, mais ce que vous faites, c'est très violent. Vous manquez de respect. Mais je trouve que c'est plutôt une forme de respect de voir qu'on respecte assez la personne pour lui finalement lui montrer les choses en face quoi. C'est-à-dire que eh ben oui et accepter que finalement on a été ah bah oui ah bah là c'était confus ok d'accord voilà mais on passe à autre chose. Donc finalement cette dimension existentielle se retrouve aussi finalement dans le dans dans le débat philosophique, mais c'est pas centré là-dessus. C'est-à-dire qu'on reste sur les idées. Mais il pourra arriver de travailler, je dirais, ce qu'on appelle ça travailler sur l'attitude, comme on le fait dans une consultation philosophique. Par exemple, je reprends un des trucs qu'on fait souvent, par exemple, est-ce que vous remarquez ici que vous ne répondez pas à la question? La personne, bah, par exemple, oui, je le remarque, ou non, bah non, j'ai répondu. Bon, ok, bah alors, en quoi vous avez répondu à la question? Mais si elle remarque qu'elle n'a pas répondu, comment expliquez-vous que vous n'avez pas répondu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive, que c'est uniquement aujourd'hui, ou ça vous arrive aussi à d'autres moments? On voit la personne à elle-même, à son existence. Est-ce quelque chose qui vous surprend, ou non? Je te vois rire, pourquoi?
Non, je trouve ça assez bien et en même temps ça se rapproche de certaines choses qu'on fait en thérapie et en même temps c'est différent donc moi je trouve c'est vraiment intéressant et surtout parce que comme tu as dit un peu tout à l'heure bah, les gens qui sont thérapeutes hein, donc bon, moi je suis de la thérapie depuis des années de manière assez quand même enfin régulière quoi hein, je fais ça à peu près à mi-temps de mon temps de travail. Et j'ai quand même régulièrement des gens qui viennent consulter et qui n'ont effectivement pas de troubles psychologiques. Ils sont pas déprimés, ils sont pas anxieux, ils ont pas de phobie, machin. Et donc, c'est des gens qui viennent parfois chercher oui, plus une réflexion un peu comme ce que vous proposez. Et donc, en général, je me retrouve à discuter un peu philo avec ces gens ou les aider à penser aux conséquences, à court terme, à long terme, à pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, etc. Mais c'est clairement pas mon travail et je suis pas spécialement formé avec les formations en thérapie que j'ai. Donc pour moi c'est vraiment une approche qui pourrait trouver une place dans une niche qui correspond à une partie des patients qui sont pas vraiment des patients finalement et qui vont chez un thérapeute parce qu'ils savent pas chez qui aller pour réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie dans leur futur quoi. Donc
Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que voilà. Oui, non, je suis d'accord avec toi, je vais pas rajouter quelque chose. Mais c'est déjà bien de le voir parce que je connais plein de thérapeutes qui ont essayé de faire leur truc PNL à travers ça. Ça donne rien à une personne qui veut réfléchir sur elle-même. C'est pas un, c'est, elle, elle souhaite pas changer un comportement ou je sais pas quoi. Ah bah ah oui bah qu'est-ce que tu voudrais à la place? Bon
C'est clair que ça, c'est un peu le risque de se pathologiser des choses qui sont pas pathologiques, quoi. À ce moment-là, on essaie de les traiter comme des pathologies qu'il faut modifier, mais c'est pas ça. Quand on trouve pas le sens de sa vie, c'est pas une pathologie. Il faut pas créer une croyance dans l'esprit des gens ou modifier ou faire un recadrage pour que magiquement ils trouvent le sens de leur vie juste parce que tu leur as dit trois phrases, quoi.
Bien sûr. Alors que, tiens, puisque tu parles du recadrage, plus, le recadrage, c'est quelque chose d'hyper présent dans la consultation philosophique, mais on le fait pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que on va pas chercher à raconter une histoire ou je sais pas quoi pour que la personne change sa représentation parce qu'on pense que sa représentation n'est pas adaptée, mais plutôt en la questionnant finalement, en examinant une idée et en voyant les limites de cette idée, les gens s'auto-recadrent de façon naturelle. Voilà, c'est bah finalement, j'avais pas vu que ah tiens ah oui là je faisais ça parce que finalement j'ai vraiment besoin d'amour quoi. J'ai besoin de le combler ce truc-là. Bah, tiens, juste rien que de s'en rendre compte, il y a quelque chose qui se recadre d'une certaine façon et c'est
Tout à fait.
tout à fait. Voilà.
Ok, écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Donc, est-ce qu'il y aurait un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs par rapport à tout ce qu'on a abordé?
Je pourrais peut-être dire, je pense que l'avenir de cette pratique, je pense que l'avenir de cette pratique, c'est pas pour en tout cas pour moi, je pense pas que ça soit directement se créer une clientèle et que des gens deviennent justement pour faire des consultations philosophiques. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une pratique qui il y a très peu de monde qui viennent faire des consultations philosophiques, je vous avoue. Mais je pense que c'est une pratique qui peut être intéressante comme pour donner des outils justement à des gens qui sont en thérapie, qui font de la thérapie, et à diversifier leur champ de compétences et répondre plus à cette demande dont tu parles, ceux qui ont envie de répondre à cette demande. Et je pense que là, je pense que c'est là le créneau où pourrait se développer cette pratique, voilà, dans la formation au thérapeute. Voilà.
D'ailleurs, c'est déjà un peu, enfin, c'est un petit peu le cas en thérapie cognitive et comportementale, hein, puisqu'ils apprennent aussi le dialogue socratique. Mais c'est vrai que ça reste une autre approche qui est quand même fort pathologisante. Je pense que ça
Après,
pourrait être intéressante.
je t'avoue que je connais mal les TCC, etc. Mais j'aimerais bien voir comment ils le font, justement. Parce que j'avoue que de l'extérieur, comme ça, j'émets quelques doutes sur la rigueur du questionnement qui peut être utilisé, voyant à quel point c'est difficile de soi-même apprendre à questionner. C'est un cheminement, je veux dire, c'est un cheminement dans l'existence qui, je pense, demande du temps et de s'y consacrer pleinement. C'est vrai que je suis comme assez sceptique, je dirais, de ce que ça pourrait donner justement dans ces pratiques, surtout si c'est des gens qui sont à la base plutôt psychologisants, qui
Oui,
sont
tout à
plutôt.
fait.
Voilà, donc je serais curieux, donc sans avoir d'idées reçues au premier abord, de voir qu'est-ce qui se fait, voilà.
Ouais, bah
Voilà.
je pense que oui, tu as raison, mais je pense que ça s'appelle ça s'appelle questionnement socratique, mais l'objectif est, enfin très concrètement, la méthode, elle vise à amener les gens à faire un peu le chemin inverse dans leur croyance, quoi. C'est-à-dire, ils vont dire bah, j'ai peur de telle situation, bah, c'est pourquoi est-ce que vous avez peur de cette situation? Qu'est-ce qui va arriver de pire? Ok, la personne répond quelque chose. Ok, pourquoi c'est un problème pour vous? Enfin, tu vois, c'est vraiment l'idée de
D'accord.
retourner à l'origine de la croyance ou de la peur. Mais ça se fait dans le contexte des fausses croyances ou des schémas dysfonctionnels. Donc c'est intimement lié à la pathologie et pas à un questionnement existentiel du tout, en fait.
Ça, c'est une des dimensions qu'on utilise. Je dirais, c'est plutôt là, c'est le questionnement qui est, j'appelle ça plutôt maïeutique, plutôt neutre, c'est-à-dire qu'on ne s'implique pas et on va plutôt chercher à approfondir ce que dit la personne. Voilà. Par contre, il y a une autre dimension et là, c'est là où je pense qu'il y a quand même un fossé. C'est quand on. Et pourtant, c'est ça l'origine du questionnement socratique, c'est de questionner la personne à partir de ses propres hypothèses. Et c'est ça, je pense, la différence. Et surtout pour des psychologues qui, je dirais, j'ai souvent vu qu'on peur de projeter, qu'on peur d'interpréter, s'il faut rester neutre, en arrière, etc. De questionner à partir de ses propres hypothèses, ça me semble quelque chose qui je pense, est difficile. Qui est déjà difficile pour nous, alors en plus, je pense, qui est plus difficile pour des psychologues. Et si on lit les dialogues de Socrate, mais c'est que ça. C'est-à-dire que, il faut arrêter de dire, c'est, ah oui, mais Socrate, c'est maïeutique, c'est génial, etc. Bah, il suffit de lire les premiers dialogues pour voir à quel point la réfutation est présente. Et qu'est-ce que fait Socrate? C'est, la personne dit quelque chose. Socrate a une hypothèse sur ce qui est en train de se passer. Il va se servir comme appui de cette hypothèse, soit en la mettant directement dans la question, ou alors se servir de cette hypothèse pour délimiter là où il faut aller et poser des questions là-dessus. Et ça me semble différent que de simplement, par exemple, dire, bah, en quoi, par exemple, c'est un problème pour vous, qu'est-ce qui est le plus. Voilà, en quoi c'est un problème, machin, nanana, j'ai peur de la mort, pourquoi? Parce que ça fait du rien, voilà. Et en quoi le rien vous pose un problème, nanana, bon, voilà, je sais pas. Ça me semble différent que, voilà, d'amener ce questionnement qui est plutôt à partir de soi. Voilà.
Ouais, je pense que c'est pas exactement les mêmes pratiques. Il y a une inspiration, enfin, ils se sont inspirés, je pense, de loin de certaines méthodes, mais c'est clair que c'est pas la même chose, c'est peut-être pas la même profondeur, quoi. Ok,
Oui.
ben en tout cas, je te remercie d'avoir participé à cet épisode, c'était vraiment intéressant, je pense, et je pense que ça
Oui.
intéressera bien les auditeurs. Donc voilà, merci de ta présence.
De rien, merci de m'avoir invité.
Voilà, et donc je mettrai. Enfin, est-ce que tu veux peut-être citer l'endroit où, si les gens sont intéressés par l'approche, est-ce qu'on peut te trouver, toi et tes collègues, quelque part, sur une page ou à un endroit bien précis?
Alors, pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent apprendre à faire la consultation philosophique ou contacter des consultants, je conseillerais plutôt de faire, d'aller soit voir Audrey Gers, soit moi-même, qui, je pense, avons une approche qui est plus souple de ce qui peut se faire chez Oscar Brunifié, par exemple. Parce que c'est vrai que les séminaires d'Oscar qu'il faut supporter psychologiquement. C'est pas neutre. Mais pour des gens qui sont déjà qui ont déjà, je dirais, compris qu'est-ce que c'est l'approche, et qui veulent s'y impliquer, et qui sont prêts justement à dépasser certaines choses d'eux-mêmes, ben, pourquoi pas aller au séminaire d'Oscar Brunifié, par exemple.
Ah bah, je mettrai.
Si les références, je peux vous les liens, je pourrais vous les
Oui,
envoyer
tu peux me
aussi.
donner ça, je les mettrai sur la page de l'épisode. Comme ça. Donc, si vous voulez avoir les liens, bah, ils seront sur la page du balado. Vous pourrez trouver à cet endroit-là. En tout cas, merci d'être venu et je te dis à bientôt.